Électrochoc, le podcast des électrons libres.
Data center spatial, dessine-moi un mouton de Panurge. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des data centers dans l'espace, une idée qui, sur le papier, pourrait sembler séduisante, mais qui, quand on y regarde de plus près, soulève d'énormes questions.
D'énormes, c'est le mot. L'idée de base, c'est de répondre à l'empreinte écologique croissante du numérique. On nous vend une sorte de Green Deal cosmique, on envoie nos serveurs en orbite et hop, problème réglé.
Exactement. La promesse est belle, il faut l'avouer. On nous parle d'indépendance énergétique totale. Imagine, des panneaux solaires gigantesques qui baignent dans la lumière du soleil 24 heures sans interruption. Une énergie propre, inépuisable.
Et le froid glacial de l'espace, autour de moins 150 degrés, qui servirait de système de refroidissement naturel et gratuit. Fini les climatiseurs qui consomment des quantités folles d'énergie et d'eau sur Terre. C'est une carte postale technologique presque parfaite.
Presque, parce que la réalité, elle, est beaucoup moins poétique. Le premier mur qu'on se prend, et il est de taille, c'est le coût carbone du lancement. Pour mettre ces structures en orbite, il faut des fusées, et une fusée, ça pollue énormément.
C'est même le cœur du problème. On parle de structures qui pèseraient des milliers de tonnes. Pour les assembler là-haut, il faudrait des centaines de lancements par an. Chaque lancement, c'est des milliers de tonnes de CO2 injectées directement dans l'atmosphère.
C'est d'une ironie terrible. On créerait une pollution massive et immédiate pendant des décennies, dans l'espoir, peut-être, d'économiser de l'énergie plus tard. Le remède semble pire que le mal, surtout quand on sait que l'industrie sur Terre fait déjà d'énormes progrès en efficacité énergétique.
Et ça soulève une autre question, toute simple mais vertigineuse. Un serveur informatique, ça a une durée de vie de 3, peut-être 5 ans. Après, c'est obsolète. Sur Terre, on les remplace. Mais dans l'espace ?
On nous parle de robots qui feraient tout le travail, qui assembleraient et remplaceraient les modules. Mais chaque nouvelle pièce, chaque serveur de rechange, il faut le lancer depuis la Terre. On rajoute encore des lancements, encore du CO2, encore des coûts astronomiques. On se retrouverait avec des serveurs jetables à des milliards d'euros. C'est juste impensable.
C'est un cycle sans fin. Et puis, il y a le choix de l'orbite. Ce n'est pas un détail. Si on va trop loin, en orbite géostationnaire par exemple, le temps de latence pour que le signal fasse l'aller-retour est d'une demi-seconde. C'est rédhibitoire pour la plupart des applications modernes.
Et si on reste plus près, en orbite basse, comme pour les satellites Starlink, on a une latence excellente, mais le data center passerait son temps à entrer et sortir de l'ombre de la Terre. Résultat, des cycles de température extrêmes et des coupures d'alimentation constantes, incompatibles avec un service qui doit fonctionner 24 heures sur 20.
Sans parler de l'environnement spatial lui-même. Sur Terre, on est protégé par l'atmosphère et le champ magnétique. Là-haut, nos serveurs seraient exposés en permanence au vent solaire, au rayonnement cosmique.
C'est une menace constante. Une seule grosse éruption solaire pourrait littéralement griller une partie de l'infrastructure. Les données pourraient être corrompues. On sait blinder les satellites, bien sûr, mais le faire à l'échelle de milliers de serveurs rendrait le projet encore plus cher et complexe, sans garantie absolue.
Et ce fameux refroidissement gratuit, c'est un peu un mirage. Oui, l'espace est froid, mais il est vide. Il n'y a pas d'air pour dissiper la chaleur par convection. Il faut donc d'immenses radiateurs. Pour un data center d'un gigawatt, on parle d'une surface de radiateur équivalente à 140 terrains de football.
Et pour alimenter ce même data center, il faudrait une surface de panneaux solaires encore plus folle, environ 5 millions de mètres carrés. Pour donner un ordre de grandeur, c'est des centaines de fois la surface des panneaux de la Station spatiale internationale. La démesure est totale.
On nous parle aussi de souveraineté numérique pour l'Europe. L'idée serait de ne plus dépendre de serveurs hébergés hors de nos frontières. Mais l'espace n'a pas de frontières. C'est un non-sens juridique et sécuritaire. Quelle entreprise accepterait de stocker ses données les plus sensibles dans un no man's land cosmique ?
Quand on met tout bout à bout, le bilan est affligeant. Le coût carbone initial est désastreux, les coûts financiers sont astronomiques, les défis techniques semblent insurmontables et la maintenance est un casse-tête logistique et écologique.
C'est l'exemple parfait de la fausse bonne idée. On cherche une solution hyper complexe et lointaine à un problème qu'on peut et qu'on doit résoudre ici, sur Terre. On a vu des tentatives, comme le data center sous-marin de Microsoft, qui a été abandonné. Pourquoi ? Probablement parce que ce n'était pas rentable.
Exactement. L'urgence, ce n'est pas de fuir nos problèmes en les envoyant en orbite, c'est d'innover ici, améliorer l'efficacité des serveurs, développer des systèmes de refroidissement plus sobres, allonger la durée de vie du matériel.
Le véritable Green Deal du numérique, il se joue avec l'ingéniosité, les pieds sur terre, pas la tête dans les étoiles. Voir des fonds européens investis dans une idée pareille, ça laisse songeur sur nos priorités.
On a l'impression d'une solution démesurée pour un problème qu'on exagère parfois, alors que les vraies solutions, plus sobres et plus intelligentes, sont à notre portée.
C'est un peu décourageant, mais il faut continuer à le dire, la solution n'est pas là-haut, elle est ici, avec nous.
Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.